Yo! Hey, dites-moi, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu un podcast puis que la personne en publie un, comme je fais en ce moment, est-ce que vous avez l'impression de retrouver un vieil ami? Moi, c'est un peu le cas quand j'entends un podcast que j'ai beaucoup apprécié par le passé, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, qui demeure silencieux pendant un mois, deux mois, six mois, peu importe, un an même, c'est déjà arrivé, même plus qu'un an. Et là, j'ai l'impression de retomber dans des vieux souliers. Des fois, je me revois dans ma tête faisant certains parcours d'autobus avec ce podcast-là dans les oreilles. Et ça me rappelle justement cette époque-là, qui est souvent pas si lointaine que ça, mais dans certains cas, comme par exemple Bruce Murray qui fait le Zcast, un podcast qui était immensément populaire vers 2005-2006. Après quelques années, il a recommencé à en faire vraiment dans le même style et c'était vraiment très, très réconfortant dans un sens. C'était vraiment amusant. Faut dire, avec les médias sociaux, on a la chance aussi, d'un autre côté, de retrouver des gens avec qui on était amis auparavant. Moi, ça m'est arrivé, j'ai retrouvé mes meilleurs potes du cégep. Les amis d'université, je les ai un petit peu plus gardés, vu que c'était, bon, j'étais à Montréal, j'ai continué à travailler à Montréal, mais les amis du cégep, les amis du secondaire, les amis du primaire aussi, il y en a plusieurs que ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas entendu parler, et je les ai retrouvés par là. Entre autres, c'est drôle, j'ai retrouvé un vieil ami du primaire, François. Écoutez, on s'était pas reparlé. On n'avait pas communiqué ensemble depuis qu'on avait quitté la sixième année. Et ce qui est drôle, et le hasard des fois fait extrêmement drôlement bien les choses, c'est que on s'est retrouvé pas via Facebook, tout ça, on s'est retrouvé via Twitter, premièrement, pour finalement découvrir que lui aussi faisait un podcast. Mon nom est Sylvain Grandmaison, vous écoutez le Québec en balado-diffusion. Hey, j'essaye quelque chose d'autre aussi aujourd'hui. Mais d'abord, bienvenue. Hey, c'est le fun de reprendre le micro, de se plugger là. J'ai l'impression de sonner comme un broken record, comme on dirait en anglais, comme un vieux disque usé. Parce que à chaque fois que je fais un podcast, ça me prend de plus en plus de temps et à chaque fois, je dis toujours que je suis content de retrouver le micro. Mais cette fois-ci, c'est vrai parce que ça faisait tellement longtemps, et vous n'avez pas imaginé le nombre de bouts d'audio que j'ai enregistré pour en faire un, et finalement que j'ai abandonné parce que c'était obsolète, ça ne correspondait plus à la réalité du moment en réalité. Donc, c'est le fun de retrouver des gens par les réseaux sociaux. Parfois, on est peut-être un peu moins content, mais dans d'autres cas, on est vraiment très, 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 très content. Et puis, bien, si j'ai des vieux copains qui écoutent ce podcast-là, je vous salue. Donc, avez-vous l'impression que je suis un vieil ami qui vous reparle dans l'oreille après cette pause-là? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et là, en ce moment, j'essaie quelque chose de nouveau. J'ai téléchargé une application pour le iPad. Ceci dit, en passant, j'ai un iPad 2 depuis le printemps dernier. Donc, c'est pour dire que ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Et puis, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Soundbite. Ce que ça permet de faire, c'est de se créer ce qu'on appelle des sound cards. C'est un peu ce qu'on avait dans les stations de radio auparavant pour pouvoir faire jouer les jingles, les publicités, tout ce genre de choses-là. Donc, c'était des sound cards physiques. Mais ici, c'est un sound card visuel. Donc, on peut assigner à plein de boutons n'importe quel fichier audio qui nous plaît. Et je ne me rappelle pas, il y a quoi? Il y a 5 rangées de large par 1, 2, 3, peut-être une dizaine, une quinzaine de haut. Donc, ça fait quand même plusieurs sons qu'on peut mettre. Ça, c'est assez intéressant. Puis en même temps, on peut créer plusieurs sound cards. Donc, on peut avoir, je pense, c'est genre 5, 6, 7, 8, je me rappelle plus trop. Interface comme ça, pleine de 5 boutons de large par plusieurs de haut. On peut changer les couleurs des boutons, on peut renommer tout ça. Donc, c'est assez pratique et c'est avec ça que je fais mon podcast. J'enregistre en temps réel tout ça en MP3. Je devrais faire aucun montage. En théorie, bien sûr, mais on va voir comment ça va aller durant la prochaine émission. « Oh là, quelle belle transition sonore. Il y a plusieurs personnes, ben quelques personnes en fait, qui m'ont soumis leur podcast. Je dois dire que pour cette émission-ci, pour me remettre dans le bain, je parlerai pas vraiment de podcast. Je vais en parler plus à la prochaine émission. Je vais mieux préparer mes notes par rapport au podcasting. Un segment que vous aimez tous, oui, le carburant de la semaine est absent pour une bonne et simple raison. C'est qu'on est en avant-midi et que je bois pas de bière l'avant-midi. Quand j'enregistre le soir, c'est là que vous avez des carburants de la semaine. Sauf que je suis en train de boire du café, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose non plus quand on fait du podcasting parce que ça c'est un peu collant. Puis quand on parle, ben, on se dérume, on fait des bruits de bouche, tout ça. Mais je suis en train de boire un café. Je vais en boire dans vos oreilles. Et certains vont me détester. Je bois du café Starbucks. Oui, à la maison. J'en ai acheté, entre autres, parce que, bon, le packaging était joli. Ce qui est une bonne raison quand on est un designer graphique de formation. Mais aussi parce que j'ai lu un livre audio du fondateur, ben pas le fondateur en fait, la personne qui a racheté Starbucks pour la commercialiser. Et c'est assez intéressant, j'ai aimé entendre ce livre-là plutôt que le lire en fait. Et puis, ben, il y a beaucoup, beaucoup d'informations super intéressantes à propos de Starbucks, comment ils ont repositionné la compagnie. Je l'ai acheté plus pour avoir un livre intéressant, un livre business intéressant. Ça me tentait de lire un livre de ce type-là. Quoique, on n'a pas appris beaucoup tant que ça sur la gestion interne de Starbucks, plutôt sur les pratiques d'affaires, plutôt sur le repositionnement de la compagnie. La compagnie a vécu une crise importante, je crois que c'est autour de 2008, puis maintenant ils sont un peu plus sur les rails. Donc, c'est assez intéressant. Pourquoi j'ai acheté la version audio? Ben, c'est parce que j'avais une promotion de audible.com. Donc, allez faire un tour là. Il y a plein de livres audio. Pour un livre gratuit, donc j'ai acheté celui-là. Et ceci dit, j'aime les livres audio. J'achète toujours la version complète quand je prends un livre audio, pas la version abridged, qui est raccourci, ça, je déteste ce genre de choses-là. Je préfère évidemment quand c'est l'auteur qui le lit, si l'auteur a un talent au niveau avec sa voix. Mais par contre, c'est ça, parfois, sont mal étiquetés chez Audible. Ça, c'est un problème. J'avais acheté un livre de Peter Mayle, un gars qui va, ben, qui écrit des livres beaucoup sur la Provence, entre autres, et pensant que c'était lui qui le lisait. Et quand il s'est mis à prononcer quelques mots en français, je me suis bien rendu compte que ce gars-là avait jamais vécu en France. Il y avait des sérieuses erreurs de prononciation. Donc voilà. Mais dans le cas du livre de Starbucks, même si ce n'est pas l'auteur qui le lit, c'est quand même un très bon narrateur. Essayez ça sur audible.com. Comment est le café mélange anniversaire de Starbucks? Mais il n'est pas vilain. C'est surprenant, je dois dire. C'est un mélange de café qui proviennent d'un peu toutes sortes d'endroits où est-ce que il importe du café. Il y a des mélanges de café vieilli là-dedans. C'est un café qui est un peu épicé, qui a quand même beaucoup de goût et qui supporte quand même assez bien de se faire en latté, donc et qui est assez équilibré aussi en espresso. En ce moment, je bois un espresso. Donc, voilà pour Starbucks. Quelle nouvelle j'ai pour vous? Ben, j'ai passé mes nouvelles très personnelles. Tout d'abord, j'ai commencé à faire de la course à pied. Tout ça parce que je suis allé voir le médecin. Je fais un léger apnée du sommeil qu'on appelle. C'est-à-dire que mes voies nasales s'obstruent un peu pendant que je dors. C'est vraiment pas sévère. C'est vraiment très minime. Mais pour éviter ça, ben, le médecin m'a suggéré de perdre un petit peu de poids. Donc, je me suis mis à la course à pied. Je me suis dit que c'était probablement le meilleur exercice pour moi. Tout ce que ça prend, c'est une paire de chaussures, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai pris une pause pendant les vacances, sauf que je me suis remis après les vacances. Et là, j'approche, je suis presque capable de courir un 5 km tout d'un bout. Donc, je vais probablement participer à ma première course au mois d'octobre. Il y a la classique du parc La Fontaine. Donc, je m'y inscris. Puis, venez faire un tour si vous-même, vous faites de la course. Ensuite de ça, je continue à faire des rénovations dans ma maison, dans ma très vieille maison. Il y en a beaucoup à faire, évidemment. On a fait des nouvelles choses cet été, ça continue. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais très occupé. Par la suite, après avoir fait quelques rénovations, on est allé en voyage en France. Encore une fois, c'est la troisième fois que j'y vais en quoi, 4-5 ans. On y va à peu près aux 2 ans. On s'est dit probablement que le prochain voyage, ce ne serait pas de retourner en France. Mais ce qui est surprenant, c'est que, bon, cette fois-ci, on est passé par Paris. On a passé 4 jours à Paris. Par la suite, 2 semaines dans le sud. On a loué 2 appartements différents dans le sud de la France. Et même si ça fait 3 fois que je visite cette région-là, même si au total, j'y ai passé à peu près presque 2 mois, je continue à découvrir plein de choses, plein d'endroits incroyables, vraiment riches en histoire. Faut dire que dans la Provence, il y a beaucoup bon, des ruines romaines, mais encore certaines installations romaines qui sont quand même fonctionnelles. Et plein de choses à découvrir, surtout si on est un gourmand, on aime le bon vin. Je suis déjà allé jusqu'à Châteauneuf-du-Pape, juste au nord d'Avignon. Donc, c'est vraiment un voyage super intéressant. Avant les vacances, j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait des conférences. Je suis allé, entre autres, donner une conférence à Tourisme Outaouais. Donc, ça, c'était vraiment super intéressant. J'ai donné beaucoup de trucs sur quoi améliorer pour les gens qui agissent en tourisme. Les restaurants, les bars, les bed and breakfast, les boutiques, les galeries, les musées, tout ça. J'avais vraiment un peu de tout pour tout. Et surtout des solutions simples qui font une immense, immense différence. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus et que vous avez ce genre d'établissement-là, je peux vous donner un coup de main. Vous avez juste à m'envoyer un courriel, m'appeler, quoi que ce soit. J'étais censé faire des conférences aussi dans plusieurs écoles. Ça ne s'est pas concrétisé parce que c'était un peu coincé à la fin de l'année scolaire, tant pour moi que pour les étudiants, parce que, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais j'enseigne aussi. Donc, moi, il y a des dates que c'était pas possible. Avec les écoles aussi, bon, après ça, ça tombait dans la fin des classes. Donc, ça n'a pas eu lieu. C'est possible que ça ait lieu cet automne. Donc, je vous tiendrai au courant. C'est sur l'identité numérique des jeunes, les risques, les problèmes, tout ça. Et aussi, ben, le plaisir qu'il y a à avoir et comment on peut l'intégrer justement à l'école, ça peut être assez intéressant. J'ai aussi fait une conférence à Podcasters Across Borders en juin. Ça aussi, c'était le fun. J'ai parlé, bon, ça parlait beaucoup de comment raconter des histoires, comment raconter des choses avec, bon, différents médias. Ça parlait beaucoup de création. Et moi, j'ai fait un parallèle avec les histoires de ma famille. J'ai analysé, décortiqué certaines histoires classiques qui se racontent dans ma famille. Pour montrer comment, c'est quoi les mécanismes quand on raconte une histoire pour fabriquer une bonne histoire. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qu'on a fait, j'ai demandé à des bons raconteurs de venir raconter des histoires de famille aussi, personnelles. Donc, 4 excellentes histoires. Puis honnêtement, moi, je suis mauvais juge de moi-même, mais je vous dirais que certains, surtout un raconteur en particulier qui a raconté une histoire durant mon bloc, pour moi, ça a été le moment magique de tout le week-end. C'est le 7-8 minutes que lui a fait. C'était absolument génial. Le gars s'appelle Anthony Marco. Il produit plusieurs podcasts en anglais. Allez voir ça sur le web. C'est super intéressant. On m'avait aussi demandé de faire ce qu'on appelle « fail camp », d'aller raconter une histoire où est-ce que j'ai eu un méchant fail, comme on dit, où est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, bon, que j'ai commis une erreur ou il y a eu un problème, mais que j'ai appris de ça. Malheureusement, c'est un soir où est-ce que j'enseigne, donc ça sera peut-être pour une prochaine édition, si ça ne donne pas justement un autre soir, où est-ce que j'enseigne. Une autre nouvelle, PodCamp, normalement on faisait PodCamp au mois de septembre, on l'a reporté au printemps pour différentes raisons, difficultés d'obtenir des salles, entre autres la rentrée scolaire pour moi. On a toujours beaucoup, beaucoup de travail. Tout le monde a beaucoup de travail en septembre, puis c'était un peu irréaliste de faire ça. Surtout que, bon, l'équipe change, l'équipe est un peu réduite, tout ça. Puis moi, j'avais rarement du plaisir les dernières semaines à préparer ça parce que j'avais juste plus de temps, j'arrivais absolument à crever, puis j'en profitais pas du tout. Donc, en le faisant au printemps, façon plus légère, équipe réduite, tout ça, je pense que ça risque d'être beaucoup plus intéressant. Donc, restez à l'écoute, je vais sûrement vous en reparler. Ensuite de ça, j'ai fait quoi? J'ai fait des projets, entre autres avec des agences de communication, et j'ai fait aussi des projets personnels avec des clients. Donc, j'ai eu un printemps assez rempli. Et un début d'été aussi assez rempli, quelques semaines assez intenses en agence où est-ce que j'allais sur place presque tous les jours et que je ressortais là à 7 heures le soir. En même temps, c'est le fun, c'est mon milieu, c'est de là que je viens. Donc, de retourner là de temps en temps, collaborer avec des gens, j'apporte un savoir-faire en même temps. On vit un moment intense sur un projet à faire quelque chose de le fun. Donc ça aussi, ça a été bien bien le fun. Puis en même temps, c'est le petit plus qui nous a permis de partir en vacances cet été. Ceci dit, parlant de vacances, pendant que j'étais en vacances, j'ai été approché par Radio-Canada pour être ce qu'ils appellent agent web. Donc j'ai été appelé pendant que j'étais à Paris. C'était bien excitant de se faire rappeler là-bas, moi qui étais carrément dans un autre état d'esprit. C'est pour une job à temps plein, donc pour une émission de radio quotidienne. C'était d'être chroniqueur web, surveiller les tendances, en parler au public, suivre les tendances sur les médias sociaux par rapport à l'émission en tant que telle, rapporter, faire un compte-rendu, interagir là-dessus en ondes, et aussi, mettre à jour le site, faire des publications, se tenir au courant, tout ça. Fait que pour moi, c'était un peu comme la job de rêve, de faire autant du micro que médias sociaux, que web, tout ça ensemble dans une job, c'était comme... oui, c'était logique que je l'aie. Malheureusement, vu que j'étais en vacances, le timing n'était pas bon parce que à Radio-Canada, il faut toujours faire un test de micro avant de commencer une émission. Là, je ne pouvais pas me rendre à Montréal pour ça. Ensuite de ça, ben, j'ai proposé de aller moi dans un bureau de Radio France en Europe. Et faire un duplex comme ça, c'était un peu compliqué, etc., etc. Puis finalement, le problème majeur aussi, c'est que je revenais de vacances le samedi et l'émission commençait le lundi. Je revenais le samedi soir, mais l'émission commençait le lundi. Donc, c'était pas possible. J'aurais pas pu participer aux réunions de production. J'aurais pas pu intégrer tout le savoir que j'avais besoin par rapport au site de Radio-Canada. Donc, ça s'est pas passé. On m'a dit, c'est peut-être simplement partie remise, on verra. Ça me tenterait, j'ai beaucoup aimé mon expérience l'année passée lorsque j'étais chroniqueur à Radio-Canada. Donc, on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. En ce moment, je vais vous faire jouer une chanson. Tiens donc, une chanson justement de mon époque du cégep. C'est ce qui m'a fait un peu allumer de mettre ce genre de musique-là. Vous allez le reconnaître. Assurément, je vous fais jouer ça, on se reparle tout de suite après.
Kill me. nightmare. Ban all the music with a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So
hey, un grand classique, hein? Oui, vous l'avez reconnu, c'est Beck, oui. Et j'aimais ça beaucoup quand j'étais au cégep. Ben, c'est vraiment l'époque où est-ce que il a commencé, il était en pleine gloire, donc ça dit un peu mon âge. Mais quand même, j'avais adoré cet album-là à l'époque. À l'époque du grunge, à l'époque de Nirvana, à l'époque de... Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient musicalement dans ce temps-là, pas juste... des rythmes réguliers qui font aboum, aboum, aboum. Oui! Alors, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler un peu de Google Plus, comme si vous aviez besoin d'en entendre parler encore. Je vous en parle de façon un peu générale. Vous n'avez entendu parler, c'est le réseau social de Google. C'était disponible sur invitation au tout début. J'ai été membre vraiment très, très, très rapidement. Vous imaginez. Ça intégrait certains principes de publication de Google Wave qui étaient... pas nécessairement vilain, donc ce qui était bon finalement dans Google Wave. Ils font des essais aussi avec des marques, donc pas juste d'avoir des gens qui interagissent, mais certaines marques sélectionnées pour faire des tests, justement, voir les interactions. Certaines marques ont essayé d'embarquer là-dessus. Certaines entreprises ont passé un peu inaperçues, ont réussi, certaines entreprises plus petites, mais des plus grandes entreprises se sont un peu faites taper les doigts pour avoir essayé. Évidemment, c'est un service qui a eu un taux d'adoption extrêmement rapide. Plusieurs millions, assez rapidement, sont devenus des utilisateurs de ce service-là. Évidemment, parce que Google rendait le service disponible à ses utilisateurs de Gmail à une certaine période. Donc, oui, ça a été extrêmement rapide. La façon que ça fonctionne, mais c'est un réseau social. L'interface est un peu inspirée de ce qui se passe sur Facebook, évidemment, avec le statut en plein centre, une grosse colonne où est-ce qu'on peut publier des liens, publier du contenu, etc., etc. Donc, jusque-là, ça va bien. Il y a aussi des listes. Donc, des listes pour nos amis, mais nos listes, c'est des cercles, on les appelle les circles. Et l'interface pour ajouter des gens, ben, c'est simple, c'est glisser, déposer. C'est intéressant à utiliser, mais je dois dire que c'est quand même long à gérer. Google Plus, c'est un réseau asymétrique, c'est comme Twitter, on n'a pas besoin de réciprocité pour suivre quelqu'un, pour être ami, entre parenthèses, contrairement à Facebook. Quoique, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. J'ai pas beaucoup publié parce que quand c'est sorti, j'étais extrêmement occupé avec, conférences, travail, rénovation, etc., etc. Vous pouvez vous imaginer. Et après ça, il y a eu les vacances, tout ça. Puis là, je suis revenu de vacances, préparons les cours pour mes étudiants. J'y vais de temps en temps, je publie presque jamais pour l'instant. Certains ont abandonné rapidement Facebook ou ont décidé d'avoir un profil très limité, entre autres Chris Brogan, parmi tant d'autres, qui a lui juste fermé son mur, tout ça. Puis, il a mis une image marquée « I've moved to Google+, tout ça, retrouvez-moi là-bas ». Donc, oui, c'est le fun de se retrouver un peu entre « early adopters » parce que c'est le public qui s'est retrouvé là assez rapidement, les gens qui adoptent les services très rapidement. Sauf que plusieurs personnes n'ont pas trouvé vraiment ce qu'ils cherchaient là, justement parce que si on est un léger « early adopters », si on est un « early adopter » modéré, et on se retrouve là, puis tous les gens qui ont communiqué normalement ne sont pas sur le service parce que c'est des utilisateurs de Facebook, etc. Mais là, c'est ça, on n'y trouve pas nécessairement son compte et on n'interagit pas nécessairement avec les gens qu'on voudrait. Il y a aussi que le problème, c'est qu'il y a des gens qui font du cross-posting dans ce service-là. Moi, je ne suis pas contre le cross-posting, au contraire. Sauf que si on va sur Google+, il n'y a que du cross-posting. À un moment donné, ça devient un peu inintéressant. Il n'y a pas de bénéfice à se retrouver là, dans un certain sens. Donc, je n'ai pas nécessairement pour l'instant trouvé le petit plus que je cherchais. J'y vais de temps en temps. À l'occasion, je découvre quelque chose que je n'avais pas vu passer, mais en général, ça demeure un peu hermétique pour moi. Et aussi, je critique un peu Google. Google font des trucs intéressants, mais en même temps, Google nourrit son propre écosystème parce qu'ils ont commencé justement avec leurs propres utilisateurs. On favorise ceux qui ont déjà un compte Google. Il y a aussi certains spécialistes du SEO qui ont dénoté des évidences dans les algorithmes de Google pour que Google donne plus d'importance aux sites qui intègrent le bouton « plus 1 » de Google Plus pour ressortir dans le moteur de recherche. Donc, les sites qui intègrent juste intégrer le bouton vont ressortir mieux qu'un site qui ne l'intègre pas. Donc, oui, on peut questionner c'est ce genre de décision-là parce que c'est pas le fait qu'il y a un bouton que le site est plus pertinent à la recherche. D'ailleurs, Google se fait accuser aux États-Unis en ce moment d'abuser de sa position de monopole pour pousser ses propres services dans son moteur de recherche. Vous allez dire, ils ont le droit, ils sont chez eux. Oui, mais quand on est celui qui domine le marché, celui par qui tout le monde passe, et on pousse sa propre salade tout le temps, il y a lieu de se questionner un peu. On pourrait décortiquer un peu toutes les façons de faire, tous les outils qui sont intégrés à Google+. Mais c'est pas ça que je vais faire. On pourrait regarder toutes les fonctionnalités. Entre autres, il y a la possibilité de faire de la vidéoconférence en circuit fermé grâce à ce qu'on appelle les Hangouts. Vous pouvez aller voir ça, c'est assez intéressant. En ce moment, on peut inviter 10 participants et soi-même diffuser en circuit fermé un peu comme une vidéoconférence. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qu'on prévoit, c'est que dans les prochaines semaines, en ce moment, c'est en test, dans les prochaines semaines, on va augmenter le nombre de participants pour que ce soit illimité. On peut voir différentes applications à ça, comme par exemple en entreprise, si on a une entreprise qui a des bureaux à travers le monde et qu'on veut s'adresser en circuit fermé aux gens de l'entreprise, on invite seulement les gens de l'entreprise et tous les employés à travers le monde peuvent aller voir la vidéoconférence là-dessus pour une formation, tout ça. Il y a vraiment un gros potentiel là-dessus, mais c'est à voir comment ça fonctionnera dans la réalité. Parallèlement à ça, Google ferme plusieurs services, développe Google+, évidemment. Il l'intègre à son moteur de recherche. Moi, j'ai hâte de voir un peu comment tout ça va évoluer. Google qui lance service après service, les gens commencent à s'abonner, puis ils ferment et ils ferment. Parfois, j'ai l'impression que Google devrait un peu essayer de se recentrer ou concentrer ses énergies sur certains services, puis arrêter d'acheter tout ce qui bouge, puis l'intégrer. Oui, Google, d'un côté, achète des compagnies pour leur brevet, justement pour éviter des poursuites judiciaires. D'un autre côté, quand on achète un service pour après ça mieux le tuer, c'est un peu ridicule. D'un autre côté, il y a aussi les médias qui rapportent le déclin de Google+. Évidemment, gros taux d'adoption au début. Les gens sont retournés beaucoup vers Facebook et Twitter après quelques mois. Moi, je trouve que le timing pour lancer un produit comme ça, juste avant l'été ou durant l'été, de la même façon qu'ils ont lancé Wave comme à peu près juste avant Noël, je trouve ça un peu ridicule personnellement parce que les vrais power users n'utilisent pas nécessairement ça dans leur temps libre quand ils sont en vacances. Ils l'utilisent pour leur travail, ils l'expérimentent justement pour faire profiter leurs clients. Donc, peut-être aussi, il n'y a personne de Google qui va écouter ça, là, mais s'ils revoyaient un peu leur stratégie de lancement, peut-être qu'ils gagneraient un peu au change. Ça éviterait que justement des gens comme moi laissent ça de côté durant les vacances puis s'y mettent pas vraiment finalement. Oh, j'ai mis un peu de délai à peser sur mon bouton. J'avais comme oublié que je mettais les petits jingles, les petits stingers qu'on appelle entre les sujets par moi-même. Vous avez reconnu l'orchestre qu'il y a dans A Day in a Life, donc des Beatles. Je vais vous parler un peu de Facebook aussi, rapidement aussi. Des nouveautés du côté de Facebook, on peut s'abonner aux publications des autres, comme dans Twitter, donc c'est assez nouveau. Ça rend un peu les fanpages obsolètes pour les personnalités publiques. D'ailleurs, c'est une demande de Mark Zuckerberg. C'est lui qui voulait avoir ça parce qu'il y avait un profil personnel, un profil public pour tous les gens qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il y avait à dire. Puis finalement, ben, tu dois gérer les deux dans un certain sens. Et ben lui, ben c'est ça, c'était le premier justement à bénéficier, à faire des tests là-dessus, ce qui est assez intéressant. Donc, en attendant, est-ce qu'on doit conserver si on a une fanpage publique? Parce que, bon, certains d'entre vous le savez, on a une limite d'amis de 5000 sur Facebook. Donc, oui, peut-être la conserver en même temps, c'est parce que c'est pas tout le monde qui connaît la fonctionnalité. D'un autre côté, on peut convertir les abonnés de sa fanpage en abonné de son profil régulier. Donc, les gens vont voir vos publications sans nécessairement être amis. Donc, on peut faire ça aussi. Et aussi, en créant des listes, bien, on peut publier seulement vers certains cercles si on dit, bon, c'est public ou je publie vers mes amis. Donc, on peut gérer ça comme ça. Ça rend la publication et la gestion des publications beaucoup plus facile. Aussi, pour ceux qui s'en sont pas nécessairement servis depuis longtemps, sachez que les anciens groupes vont mourir sous peu. Je crois que c'est en octobre, si ma mémoire est bonne. Il semble qu'on ne pouvait pas technologiquement les faire évoluer. J'ai quand même des petits doutes là-dessus. Les groupes, c'était un peu une interface un peu plus fermée. C'était plus difficile à gérer que les fanpages. Et voilà. Je suis sûr qu'il y a quand même moyen d'arrimer ça technologiquement et faire évoluer ces groupes-là. Mais en même temps, pour Facebook, c'est quand même un moyen de nettoyer les vieux trucs qui sont inactifs depuis un an, deux ans. Sachez que les groupes, ça date vraiment des débuts de Facebook. Donc, Facebook, qui ont proposé, ils créent des nouveaux groupes, mais on ne peut pas migrer les anciens groupes vers les nouveaux et on perd automatiquement les membres du groupe. Et justement, les groupes vont mourir, donc il faut avertir tout le monde puis inciter tout le monde à s'abonner au nouveau groupe. Donc, c'est un service, c'est un nouveau service, mais bon, on aurait pu mieux arrimer ça avec le temps. Facebook a aussi des nouvelles fonctionnalités. Il y a des smart lists à gauche, donc des listes contextuelles dans un sens. Il y a aussi des publications de vos statuts qui ont un peu évolué. Il y a un fil de publication en haut à droite, un fil qui est un petit peu plus, qui est tout petit, un peu en temps réel, un peu comme ce qu'on voit, par exemple, dans les widgets Twitter, que, bon, tout se met à jour assez rapidement. Les publications populaires, dans nos statues sont mis en évidence par un triangle bleu, donc un petit coin bleuté. Il y a toutes sortes de choses comme ça à expérimenter, à s'amuser avec. Et il faut voir justement comment une publication devient une publication populaire avec un petit triangle bleu, voir le mécanisme, tout ça. Donc, c'est intéressant à observer justement pour pouvoir mieux ressortir. Si vous n'avez pas la nouvelle interface ou les nouvelles fonctionnalités, si vous ne les avez pas rapidement, un truc, c'est de changer sa langue pour l'anglais. C'est sûr, bon, c'est plate si vous êtes francophone puis vous n'êtes pas habitué en anglais, tout ça. Mais d'un autre côté, si vous voulez rester à la page puis savoir c'est quoi les nouveaux développements, changez votre langue tout simplement pour l'anglais. Certains se plaignent évidemment de certains changements, mais ça arrive toujours depuis le début de Facebook, depuis que moi je suis là-dessus. Il y a plein de gens qui se plaignent. Mais si en même temps les changements qui permettent à Facebook de rester, comme on dit, on top of the game, mois après mois, on ne retournera sûrement pas à Facebook avec des widgets pour ceux qui s'en rappellent et que ça fait assez longtemps qu'ils sont là-dessus. On pouvait mettre des widgets, configurer tous les éléments de la page exactement comme on voulait et déplacer les éléments dans la page. On ne retournera sûrement pas à ça. Non plus avec des. On ne retournera pas en arrière avec des statuts qu'on ne peut pas commenter, avec status competition, pas like, etc. Bref, on n'est plus en 2007. Il faut quand même évoluer vers les nouvelles habitudes qui sont créées, entre autres, par d'autres services web. Ce qu'on peut dire, entre autres, c'est que Google Plus a fait évoluer Facebook énormément. D'ailleurs, Facebook s'inspire depuis toujours des services de ses concurrents. Il s'est inspiré beaucoup de Twitter pour, à un moment donné, mettre à jour les statuts, etc. Et il y a un parallèle à faire avec des compagnies comme Apple qui fabriquent des ordinateurs. Apple qui fait la même chose en laissant les développeurs créer de nouvelles fonctionnalités, par exemple pour les iPhones, en mode jailbreak, c'est-à-dire débarrer son téléphone pour pouvoir installer ce qu'on veut de façon plus ouverte. Donc, on peut installer ce genre de nouvelles fonctionnalités-là. Et Apple n'interdit pas les développeurs, les laisse faire. Et ils savent très bien que toutes ces nouvelles fonctionnalités-là, qui sont développés de façon, entre parenthèses, semi-illégale, ben ils peuvent les récupérer et les intégrer à leur propre interface. Donc, c'est ce qui se passe à chaque fois. On laisse les gens développer, on regarde qu'est-ce qui se passe et on intègre ces nouvelles façons de faire-là. Et c'est ce que Facebook fait depuis le début. C'est ce qui fait que Facebook a rapidement, un jour, dépassé MySpace. Et c'est ce qui fait que MySpace n'est jamais capable garder le cap, tenir le rythme. MySpace, ça évolue pas ou presque jamais. Donc voilà. Et moi, ce que je dirais là-dessus, ce que fait Facebook, ben, c'est du crowdsourcing à son meilleur ou du social sourcing à son meilleur. Appelez-le comme vous voulez. Mais ça marche pour Facebook. C'est ce qui fait que ben, Google Plus va continuer peut-être à perdre des plumes et Facebook à revenir sur le marché de plus en plus. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast que j'ai concocté pour vous, enregistré tout en temps réel. La prochaine fois, je vais essayer de parler un peu plus de podcasting. Je vais vous parler aussi un peu de mon setup, entre parenthèses, de ma façon d'enregistrer, puis du matériel que j'ai. On me le demande souvent, ça évolue toujours un peu, puis là, pour l'instant, je pense que ça va être ma façon de faire depuis, pour un certain temps, justement avec le iPad, pour pouvoir faire jouer mes jingles et la musique, tout ça. Puis, ce que je vais faire, je vais sûrement mettre une photo aussi, donc le prochain podcast. Je risque de parler beaucoup plus de balado-diffusion. Donc, si vous voulez aller sur le site, voir les liens vers tout ce que j'ai parlé dans l'émission, québecbalado.com. Sinon, vous pouvez m'envoyer un commentaire, j'apprécie toujours. Québecbalado@commercial.gmail.com ou tout simplement sylvaingrandmaison@gmail.com. C'est l'adresse où est-ce que vous pouvez me trouver. Je vous fais jouer une autre chanson très, très iconique. Début-milieu des années 90, d'un groupe iconique du début-milieu des années 90. Je vous le dis tout de suite, c'est Nirvana, The Man Who Sold the World, un classique, chanson de Bowie qui avait fait pour le Unplugged de MTV. Et c'est drôle parce que la session passée, Je parlais à mes étudiants, certains qui sont nés cette année-là, que moi, j'ai écouté ça live à la télévision, cette émission-là, le Unplugged de Nirvana. Et évidemment, j'étais sur le cul, j'adorais Nirvana à l'époque. Donc, je vous fais jouer ça et on se quitte, on se laisse là-dessus. À bientôt.
David Bowie's song.